Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Gérard Larcher, président du Sénat. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Gérard Larcher.
Bonjour et merci. Bonjour à tous et toutes.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Toutes, vous avez raison de le dire, puisqu'à mes côtés, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion.
Bonjour.
Et Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour.
Bonjour
Amélie. Cette émission est bien sûr en direct, vous le savez, jusqu'à 13h. Vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux, hashtag le grand jury, et elles seront posées au président du Sénat en fin d'émission par Marie-Pierre Haddad. Alors Gérard Larcher, le gouvernement est contesté de toutes parts par les restaurateurs, notamment anxieux pour leur activité, par des étudiants angoissés pour leur avenir, mais aussi tout simplement par des Français lassés de ne pouvoir se déplacer librement. Cette inquiétude générale est compréhensible. En revanche, ce qu'il est peut-être moins en ces temps sombrement inédits, c'est le manque de solidarité de l'opposition. Vous qui avez coutume de manier la nuance et la modération, mais qui en même temps n'êtes pas tendre avec Emmanuel Macron, vous nous direz pourquoi cette unité nationale a vécu. Est-ce de la faute du gouvernement ou parce que les élections approchant, les ambitions politiques reprennent le dessus ? Feriez-vous vraiment mieux, vraiment différemment si vous étiez au pouvoir ? Vous êtes aujourd'hui, Gérard Larcher, l'une des rares voix qui porte chez les Républicains une droite difficilement audible, faute d'une ligne commune et d'un leader incontesté, plus encore depuis l'abandon de François Baroin dans la course à l'Élysée. Il est donc important de vous entendre là-dessus et nous le ferons dans la seconde partie de cette émission. Mais tout de suite, nous venons à la gestion de la pandémie. Première question, Marion Mourgue.
Le gouvernement a décidé de maintenir fermés les commerces dits non essentiels. Est-ce que pour vous, il faut introduire un peu plus de souplesse, aller vers une réouverture de ces commerces non essentiels ou peut-être un peu du cas par cas selon les territoires ?
D'abord, on est dans une situation qui demeure préoccupante, dans certains territoires très préoccupante. Et nous devons le prendre en compte et faire de cette situation sanitaire une priorité. Il y a en ce moment quand même 32 000 personnes hospitalisées, près de 5 000 en réanimation, en soins intensifs. Je ne peux pas ne pas dire que j'ai une pensée pour eux et pour les soignants. Je faisais le point avec ma directrice d'hôpital et les délégués du personnel vendredi. J'ai une pensée pour eux comme pour les médecins généralistes, les infirmiers qui accompagnent. Alors, la réponse...
Est-ce que le 1er décembre, c'est trop loin finalement pour les commerces ?
Sur la situation des commerces, la question qui est posée, c'est comment nous gérons ce confinement ? On a choisi un confinement différent. On a choisi un confinement où on va à l'école, et c'est quelque chose d'extrêmement important. On a choisi un confinement où on tente, et on réussit d'ailleurs, à conserver une activité économique, bien sûr, en privilégiant le télétravail. Alors, sur la situation des commerces, c'est naturellement une situation dramatique. Et vraiment, j'ai un premier regret. C'est qu'on ait pris une décision unilatérale sans se donner la capacité de territorialiser les réponses. Vous savez, le Sénat a fait une proposition d'amendement. Amendement 83, de confier au préfet la responsabilité de gérer la situation commerciale, notamment dans les centres-villes et dans les centres-bourgs, en lien avec les élus et les professionnels.
Ça veut dire que le préfet aurait pu réouvrir les commerces.
Et on l'a voté à l'unanimité. À l'unanimité. Et le gouvernement n'a pas saisi cette main tendue. Alors, dans les 15 jours qui viennent, sans doute les choses pourraient évoluer. Et je pense que la bonne évolution, c'est l'évolution à l'allemande, qui a pris en compte les gestes barrières et ces fameux 10 mètres carrés en Allemagne, 4 mètres carrés en France, j'allais dire par magasin. Je pense qu'il y a une perspective et il faut s'y préparer. Et là, dans un dialogue entre l'exécutif, notamment les préfets, les professionnels et les élus.
Si ces commerces-là ne rouvrent pas, si ce n'est maintenant, en tout cas au 1er décembre, est-ce que vous craignez l'expression d'une colère forte et sociale ?
Je sens une angoisse, je sens, au-dehors de la colère, vraiment une inquiétude. Imaginez un commerçant qui a fait rentrer un stock pour les fêtes de fin d'année et qui se dit que jamais ce stock, il ne pourra l'écouler. Certes, il y a des soutiens, des aides, et c'est une bonne chose de la part de l'exécutif. Mais le rêve de ce commerçant, c'est de rencontrer les clients, y compris de manière adaptée. La situation est un peu différente pour les bars et les restaurants parce qu'on voit que nous sommes là dans une situation un peu différente de diffusion virale. Ils doivent être soutenus, mais la première question qui est posée, ce sont ces commerces de centre-ville et de centre-bourg.
Mais Gérard Larcher, qu'on vous comprenne bien, vous dites que la limite pour la fermeture des commerces, ça doit être le 1er décembre. Au-delà, ça serait insupportable.
Ça va dépendre de la situation sanitaire. Parce que pourquoi on en est là? C'est quand même le fruit d'un échec. Échec collectif, d'ailleurs, et pas simplement échec du gouvernement, comme je l'entends parfois. En fait, on a raté le triptyque testé, tracé, isolé. Et notamment, on a raté le dispositif de l'isolement. Et que, souvenez-vous, c'était au mois de septembre, quand il fallait parfois attendre une semaine pour être testé et une semaine pour avoir la réponse. J'avais d'ailleurs interrogé le Premier ministre dès le début septembre sur cette situation. Et donc, demain, pour sortir du confinement, il faudra naturellement qu'on réussisse ce triptyque testé, tracé, isolé. Et puis, il va y avoir la préparation vaccinale.
Avant d'y venir, prenons un exemple très concret, c'est celui des librairies. Vous savez que ça déclenche un grand émoi, que leur fermeture. Et à Cannes, il y a une librairie qui a bravé l'interdit et qui est restée ouverte. Et le maire de Cannes, David Lisnard, qui est de votre parti, que vous connaissez bien, les Républicains, eh bien, est allé dans cette librairie pour acheter un livre en signe de soutien. Auriez-vous fait la même chose, Gérard Larcher?
Sans doute pas, parce que par nature, moi, je respecte la loi, même quand elle ne me plaît pas. Mais la question des libraires, vous savez, moi, la vraie vie, c'est celle que je vis dans ma ville, Rambouillet. Quand vous avez en centre-ville un Monoprix qui est ouvert, avec tous les rayons, et qu'à 50 mètres, ce qu'on trouvait en rayon la semaine dernière est interdit de vendre dans un magasin 50 mètres, comment voulez-vous que le commerçant n'ait pas le sentiment de l'inéquité alors qu'il est prêt aux gestes barrières? Il faut donc que le dialogue permette de renouer, j'allais dire, une possibilité pour ces commerçants. Naturellement, c'est le niveau de virémie et de pandémie qui nous éclairera.
Pourquoi le gouvernement ne vous a pas entendu sur votre proposition, Gérard Larcher, dont vous nous parliez tout à l'heure?
Parce qu'on ne se... On ne se parle sans doute pas assez entre le gouvernement et le Parlement. J'ai écrit, après ce vote, j'ai écrit au Premier ministre parce que nous avions la possibilité en commission mixte paritaire et même après la commission mixte paritaire. Je l'explique pour les auditeurs, les téléspectateurs, c'est la rencontre de 7 députés et de 7 sénateurs, et puis après il y a un débat, de réintroduire cette disposition de bon sens. Vous savez, le préfet est aux ordres du gouvernement, et c'est normal. Mais lui donner la possibilité de dialoguer, c'était, me semble-t-il, le bon sens près de chez vous, comme aurait dit un slogan publicitaire il n'y a pas si longtemps.
Justement, là-dessus, le préfet et Marion.
Vous parliez des commerces de proximité et parfois des absurdités de situation selon les territoires. On arrive vers le Black Friday. Ce jour, il y a des grandes soldes qui sont organisées, notamment par les grandes plateformes. Est-ce que vous pensez qu'on peut et qu'il faut supprimer cette journée pour essayer d'avoir une équité entre les commerces?
D'abord, il y a un problème constitutionnel. Il y a un problème de liberté du commerce et on ne peut pas interdire ou en faire un slogan, donc ça ne serait pas constitutionnel. Je pense qu'il faut aussi appeler nos compatriotes à leur responsabilité, leur solidarité vis-à-vis des commerçants de cœur de ville et de centre-bourg. Et je crois qu'il ne faut pas non plus opposer. Le e-commerce, c'est aujourd'hui, chacun le sait, une fraction limitée, on parle de 10% du commerce en France. Il faut qu'on le développe. Y compris dans le commerce indépendant. Il est beaucoup moins développé en France qu'en Allemagne, par exemple. Mais sur Black Friday, le moment d'avoir un Solidarity Friday pour le commerce de centre-ville, centre-bourg. C'est en vieux français, un vendredi de la solidarité avec nos commerçants. Ce sera mieux qu'un vendredi noir.
C'est-à-dire de ne pas aller sur les plateformes.
En tous les cas, d'être attentif et de réserver une partie de ses achats à ces commerçants-là. Ça, c'est du concret. Mais et c'est l'ancien maire qui réagit. C'est le moment d'exprimer une solidarité.
Et est-ce que pour aller plus loin, vous dites qu'il va falloir lutter, mais je dis bien lutter contre des géants tels que Amazon? Et de quelle manière est-ce que vous les allez travailler, avancer là-dessus?
C'est pas un ennemi. Amazon. C'est pas un ennemi, ceux qui utilisent le e-commerce, sauf qu'il faut des règles claires en matière concurrentielle. Et notamment, Amazon, vous le savez, est interrogé par la Commission européenne sur son rôle sur ce qu'on appelle la place de marché, puisque la plateforme Amazon aide aussi, j'allais dire, au commerce d'autres entreprises. Mais vous savez qu'ils ont sans doute un peu abusé de leur situation dominante. C'est donc les conditions de la concurrence et de l'équilibre de la concurrence sur lequel il faut se battre. On peut être un libéral, mais le libéralisme, ça n'est pas une absence de règles.
Mais pour être très concret, est-ce qu'il faut empêcher, stopper le maintien de la construction d'un grand entrepôt? C'est même le plus grand dépôt Amazon.
Mais au nom de quoi? Au nom de quoi? Et il faut qu'on arrête, me semble-t-il. Nous avons des règles, nous avons des principes constitutionnels, on y reviendra sans doute au cours de l'émission. Tout le monde sait que je n'ai jamais été extrêmement favorable au développement des périphéries commerciales. Ça fait partie aussi des formes de distribution, des équilibres qu'il faut trouver. C'est le moment de marquer une vraie solidarité, le respect des règles de concurrence, et pas simplement de pleurer sur le commerce indépendant, il faut lui envoyer des preuves d'attachement.
Alors, vous avez parlé de Solidarity Friday qui...
Bon, je l'ai inventé, pardonnez-moi, assez mal l'anglais.
Mais on l'a entendu, on a compris que derrière solidarité, il y avait solidarité, et donc d'attendre que les commerces ouvrent pour faire les achats de Noël. Qu'en est-il, puisqu'il est aussi question en ce moment de culte et de liberté de culte, beaucoup de catholiques aimeraient bien pratiquer, exercer leur culte dans les églises au cours de messe. Est-ce que vous pensez aussi que ça doit être de la responsabilité des préfets, territorialement ?
Écoutez, d'abord, c'est une liberté fondamentale, inscrite dans les principes de la République, rappelée dans la loi de 1905, auquel je suis totalement attaché. Vous savez, la loi doit protéger la foi, disait Aristide Briand, et il ajoutait « tant que la foi n'entend pas dicter la loi ». Donc la primauté, c'est naturellement la loi de la République.
Donc
et le Conseil d'État a dit qu'en l'état actuel de la pandémie, il lui semblait que la position du gouvernement était proportionnelle. Moi, je souhaite que cette position soit revue. Nous arrivons en effet dans un temps important notamment pour la communauté chrétienne, qui est le temps de l'Avent, qui conduit jusqu'à Noël, et qui n'est pas un temps indifférent, au-delà de la symbolique de Noël, pour les catholiques.
Donc on lève
et je dois dire qu'il m'apparaît important, et j'appelle au dialogue qui doit commencer demain, entre les cultes et l'exécutif.
Mais vous souhaitez que ces messes reprennent, si je vous entends bien?
À la condition que les conditions sanitaires soient respectées.
À l'intérieur des églises.
Mais Gérard Larcher, actuellement, ce n'est pas le cas. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ne s'interdit pas qu'il y ait une verbalisation des fidèles. Est-ce que pour vous, ça va trop loin?
Autre chose. Ce sont le rassemblement des fidèles
devant
qui
les églises
expriment leur attente. Et pardonnez-moi, pour des catholiques, la messe et l'Eucharistie a une signification forte.
Et donc
on doit prendre en compte qu'on ne peut pas ignorer. Et la vraie réponse, ça doit être dans le dialogue et dans les conditions sanitaires. Mais je pense qu'on est là sur une liberté fondamentale et que le gouvernement doit y être extrêmement attentif. J'ai d'ailleurs reçu cette semaine le président de la Conférence des évêques, Mgr Moulin-Beaufort, pour parler à la fois futur texte sur la laïcité, mais aussi de la situation qui est faite notamment au culte et notamment aux chrétiens, et encore plus particulièrement à la communauté catholique.
Et ça doit bien évidemment, si on vous entend bien, s'appliquer à toutes les religions.
Bien sûr.
Très bien. Amélie Carouère.
Le Premier ministre, entretien au Monde hier, assume plutôt une ligne dure et nous prévient même qu'il va prévoir des règles pour vivre avec le virus, peut-être une vie d'ailleurs sous attestation pendant 7-8 mois jusqu'au vaccin. Il assume cette ligne dure. Est-ce que vous êtes aux côtés, oui ou non? On a peut-être du mal à le cerner, du Premier ministre, dans cette ligne dure.
Je suis aux côtés de ce qui va nous permettre de vivre avec le virus, mais d'une manière qui soit sous le contrôle du Parlement. En effet, les textes d'urgence sont extraordinairement restrictifs de nos libertés. Vous savez, j'ai fait l'expérience, le week-end dernier, j'ai rempli ma feuille de déplacement pour un kilomètre, en devant mettre vers qui j'allais.
C'est la première fois que vous la remplissiez.
Je l'ai fait. C'est la première fois dans le cadre de ce confinement. Et je suis parti voir quelqu'un à moins d'un kilomètre. Et je dois dire que je me suis dit, mais c'est quand même une incroyable restriction de liberté. Quand elle est nécessaire, il faut qu'elle soit proportionnée et qu'elle soit sous le contrôle du Parlement. Simplement, je veux ajouter une chose. On a débattu de l'urgence 4 fois en 7 mois. Et dans le dernier texte, on nous a proposé de ne plus en parler jusqu'au printemps. Ça n'est pas acceptable.
Pour qualifier les choses, vous parlez de quoi ? D'autoritarisme ? De comment vous qualifiez les méthodes de l'exécutif au regard de ce que vous venez de dire ?
D'autorité, sans débat préalable, avec, dans une démocratie, ce qui est en charge de faire la loi et de contrôler l'exécutif, c'est-à-dire le Parlement.
Mais donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que concrètement, vous me dites que l'état d'urgence n'aurait pas dû être prolongé jusqu'au 16 février, que la droite a eu raison de vouloir raccourcir ce délai et de réexaminer en décembre.
Il faut en redébattre.
Il n'y a pas assez de débat aujourd'hui dans notre pays.
Non, il faut en redébattre au Parlement. C'est un sujet majeur. Est-ce que pendant 6 mois, on restreint les libertés sans demander aux parlementaires d'en discuter, de l'évaluer? Parce qu'aujourd'hui, qui a les outils d'évaluation ? C'est uniquement l'exécutif. Le Parlement n'a d'ailleurs pas aujourd'hui les moyens de l'évaluation. Et je ne vous cache pas que nous allons nous donner les moyens de l'évaluation.
Ça veut dire quoi, ça, pardon ?
Ça veut dire de faire comme le Parlement allemand, qui a eu un débat au Bundestag la semaine dernière, dans lequel on confronte les chiffres de l'exécutif, des services de l'État, avec des évaluations qui sont des évaluations indépendantes proposées par le Parlement. C'est ça,
pourquoi dialoguer. Pourquoi vous remettez en question quels chiffres ?
Je ne remets rien en question.
Vous parlez des chiffres de la pandémie, là.
Oui, je ne débat pas là-dessus, je n'ai pas de théorie complotiste, je ne pratique pas le hold-up, bien au contraire, je le combats.
Au nom du documentaire.
Non, mais je le combats.
Oui.
Mais je dois dire qu'il m'apparaît que l'exécutif doit parler au Parlement. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit au président de la République la semaine dernière. C'est ce que j'ai dit au Premier ministre. Nous étions ensemble dans l'avion pour aller à Nice. Ce n'est pas un secret de fauteuil l'un à côté de l'autre. Parlons-nous. Avant de parler d'unité nationale, d'union nationale, parlons-nous, respectons-nous, débattons.
Mais il ne vous respecte pas, Emmanuel Macron. On a l'impression que vous nous parlez d'un président isolé dans sa tour d'ivoire.
Écoutez,
qui oublie les parlementaires.
Je ne mets pas ça, puisque le président m'a reçu longuement et nous avons pu échanger sur tous les sujets en liberté. Mais je vais vous prendre un exemple. 206 ordonnances. Ça veut dire que 206 voix, et notamment 67 fois, sur les textes d'urgence sanitaire, on dit au Parlement que vous n'en débattrez pas. Vous ratifierez après. Ça n'est pas une méthode acceptable dans une démocratie parlementaire. Je l'ai dit au président, il faut vraiment retrouver le chemin, tout simplement, du débat, du dialogue et du vote. Et d'ailleurs, le gouvernement a une majorité. A une majorité, un moment pour décider.
Est-ce que vous jugez justement que la démocratie est abîmée ? Vous parlez des ordonnances. Il y a aussi un usage très important qui est fait du Conseil de défense. Beaucoup d'élus, y compris au sein des Républicains, s'interrogent sur cet usage qui est parfois un peu surprenant ou démesuré.
Qui est un conseil des ministres restreint, hein, pour être clair, avec quelques ministres seulement.
Usage qui existe dans l'exécutif. Je pense que, c'est d'abord le rôle du Conseil des ministres. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le dialogue entre l'exécutif et le Parlement. Je ne porte pas de jugement sur la pratique du Conseil de défense. Vous savez, moi, je suis très respectueux des prérogatives du président de la République.
Mais
je suis exigeant sur les prérogatives du Parlement.
Vous avez souvent reproché à Emmanuel Macron sa verticalité. Est-ce que là, vous jugez que, justement, il y a toujours cette verticalité au détriment du Parlement ?
Pas simplement d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je vois que dans les décisions... Et nous revenons à la situation des commerçants, par exemple. Mais aussi dans le futur plan de relance. Vous avez vu, il y a un appel des maires de 101 communes.
Oui.
Et cet appel, au fond, est un espèce de cri, d'appel au secours, pour que dans des quartiers qui vivent très difficilement le confinement, où la disparition de la vie associative ouvre la voie à un certain nombre de forces qui n'ont rien à voir avec la République, ils appellent tout simplement à ce qu'on débatte avec eux. Voilà pourquoi j'ai demandé au Premier ministre qu'une partie du plan de relance, et une partie significative, ne soit pas décidée de manière verticale, mais fasse l'objet d'une déconcentration. dans un débat entre les préfets, les élus, les préfets et les entreprises, les préfets et les organisations professionnelles. C'est ça que j'attends. Plus la crise est forte, plus la tension est forte, plus l'angoisse est forte, plus nous devons être dans la proximité. Ce qui n'exclut pas un certain nombre de décisions qui s'imposent à tous, mais en démocratie, toujours après le débat. Alors, et le débat est précédé d'un
échec. On y reviendra, mais une question très concrète.
Mais d'ailleurs, c'est peut-être une question qu'il faudra mettre au débat, nous direz-vous. L'obligation vaccinale, les vaccins. Il y a une grande réticence des Français. 50% d'entre eux disent ne pas vouloir se faire vacciner. Question simple, faut-il, oui ou non, le rendre obligatoire pour tous, ce vaccin ?
D'abord, organiser la stratégie vaccinale. Et c'est une demande que j'ai faite. Organisons la stratégie vaccinale. Nous espérons avoir un vaccin et c'est un espoir important. Vacciner, il faudra déterminer les priorités, d'abord, avant d'avoir des débats idéologiques. Les seniors, les personnes qui ont un certain nombre de pathologies, des personnes extrêmement exposées, des personnels soignants, c'est ça qu'il faut définir, la priorité. Et ensuite, comment on fait ? Car s'il faut, par exemple, conserver une partie des vaccins, il faudrait les conserver à moins 80 degrés. Vous voyez bien que ça ne pourra pas se faire entre, ce, j'allais dire, son réfrigérateur et la visite de son médecin ou d'une infirmière ou du pharmacien.
Oui, vous vous feriez vacciner,
donc,
vous, par exemple ?
Sur l'obligation vaccinale, je vais être clair.
Oui.
DT polio, obligatoire. Obligatoire, et d'ailleurs le Conseil constitutionnel, dans une QPC, a réaffirmé...
Une question que prioritaire.
Question, pardonnez-moi, je jargonne un peu. J'espère que les auditeurs, les téléspectateurs
on
n'en voudront pas.
Là.
Mais bon, vous faites la traduction, donc. Après, Solidarity, donc c'est la QPC.
Alors,
je veux dire que, quand on se vaccine, c'est pas que pour soi. C'est une forme de chaîne de solidarité, de protection de l'ensemble de la société. Parce qu'on sait ce qu'on appelle le matelas vaccinal, qu'il faut un pourcentage élevé de gens vaccinés pour protéger. Et vous savez, moi, l'exemple de la polio me parle, pour des raisons personnelles, de manière très forte. Je dis à mes concitoyens, c'est pas que vous-même qui êtes en cause dans la vaccination, c'est l'ensemble de notre société. Et quand on parle beaucoup de solidarité, eh bien la question vaccinale, donc je suis favorable, si nécessaire, à la vaccination obligatoire. C'est ce qui nous a permis de nous en sortir de la polio. C'est d'ailleurs ce qui a permis à l'Afrique, depuis cette année, de n'avoir quasiment plus aucun cas de poliomyélite. Alors je veux bien qu'on ait toutes les pensées, tous les débats, mais pardonnez-moi, un élu, il a la responsabilité collective, et je vous dis que dans ma responsabilité collective, si c'est nécessaire, il faudra.
On va vous dire, on va vous rétorquer, les Français qui ne veulent pas se faire vacciner de la grippe disent bah, moi, j'ai mon libre arbitre.
Ça n'a rien à voir, vous voyez bien. Les conséquences aujourd'hui sont en train d'angoisser les Français, de paralyser notre pays, de paralyser l'Europe. Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité collective ?
Mais est-ce que justement, collectivement, il va falloir en débattre, tout comme parler d'isoler plus les Français, des amendes, des sanctions ?
C'est le rôle du Parlement.
Oui, mais pour le moment, la discussion n'a pas lieu. Vous dites, vous appelez aujourd'hui le gouvernement Emmanuel Macron, ayant une discussion sur l'obligation vaccinale.
J'ai demandé à ce qu'on engage la stratégie, et naturellement, alors là, je ne doute pas, je ne ferai aucun procès d'intention. Je suis certain qu'il y aura une saisine du Parlement le moment venu, et d'ailleurs nous nous y préparons, une saisine du Parlement, parce qu'il devra y avoir un vote du Parlement.
Mais sur, par exemple, Amélie Carrère l'évoquait, sur le fait de sanctionner les Français qui seraient atteints du Covid et qui ne respecteraient pas leur isolement. Est-ce que cela, vous dites, ça va trop loin ou il faut aussi l'envisager ?
Je crois que d'abord il faut que culturellement, pédagogiquement, nous fassions partager à nos compatriotes qu'il faut s'isoler. C'est leur intérêt et c'est aussi l'intérêt collectif. Pardonnez-moi, ce moment où on assiste parfois au repli sur soi, c'est peut-être un moment collectif. Parce que la pandémie, ça n'est pas que l'affaire de Gérard Larcher, personne. C'est une affaire collective.
Mais alors,
elle touche ma famille, elle touche mon entourage, mes amis, elle touche la société. Et c'est un moment, me semble-t-il, où nous devons être collectifs.
Et s'il n'y a pas de responsabilité individuelle, est-ce qu'il doit y avoir une sanction ?
Écoutez, nous aurions éventuellement ce débat, parce que là aussi, c'est une affaire de liberté.
Amélie Carrère, pardon, Marion Mourgue.
La France va franchir la barre des 10 millions de pauvres en 2020. Selon les chiffres du Secours catholique, on apprend aussi 300 000 SDF. Est-ce que pour vous, face à cette situation de pauvreté, il faut une contribution exceptionnelle sur les revenus les plus importants? François Hollande, qui était ici l'invité du Grand Jury, le prenait.
D'abord, la réalité de la pauvreté, elle est en train vraiment... d'émerger encore plus fortement dans le quotidien. Et nous en connaîtrons d'autres visages avec la réalité du chômage. Vous savez, avec une baisse de 11% du produit intérieur brut, sans doute 1 million de chômeurs en moins, il y aura des réalités. Et aujourd'hui, c'est par exemple les jeunes, ceux qu'on appelle les permittents, ceux qui avaient un travail à temps partiel, ceux qui d'ailleurs, il faut se dire les choses en vérité, complétaient leur... travail à temps partiel parfois par des petits boulots qui n'existent plus, dans les secteurs de la restauration, dans le soutien au commerce, dans des activités diverses. Cela, c'est d'ailleurs une des préoccupations dans le projet de loi de finances qu'a le Sénat. Comment on apporte des réponses? Comment on apporte des réponses? Parce que l'immédiateté, c'est pas tant de lever l'impôt, c'est d'abord de savoir comment
donc,
on les aide.
À une contribution exceptionnelle.
Comment on les aide? Vous savez, dans ce pays, avant d'avoir trouvé la solution à la pauvreté, on pense à l'impôt. Moi, je propose d'abord qu'on débatte comment on évite que la pauvreté n'explose dans notre pays.
Alors, Gérard,
au détour de la pandémie. Ensuite, on se posera la question du financement. Parce que quand on va être sorti de la pandémie, et j'espère qu'on en sort, nous allons être dans une situation financière qu'il va bien falloir analyser et rebaser.
On va y revenir, Gérard Larcher, juste un instant, on va y revenir, mais d'abord, notre rubrique Retour instantané, pour les 40 ans du Grand Jury, c'était le 3 janvier 1993, nous parlions de solidarité, il était question ce jour-là de la retraite des sénateurs. Écoutez l'un de vos prédécesseurs, René Monory.
Le Grand Jury, retour instantané.
Aujourd'hui, la caisse des sénateurs est de 2,2 milliards et les retraites versés chaque année sont de 110 millions. Peut-être qu'un jour, il y aura une évolution, mais on ne va pas se presser, il n'y a aucune raison. Alors, comment ça évoluera? De toute façon, on ne va pas donner l'argent au gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite. Le jour où on s'apercevra, où on jugera qu'on n'a pas besoin davantage d'argent pour garantir les retraites dans l'avenir, on verra si on fait évoluer les choses.
Gérard Larcher, 30 ans plus tard, rien n'a bougé.
Si.
Quasiment rien. Vous avez dit vous-même que ce système était avantageux et que vous attendiez la réforme des retraites globales pour le réformer davantage.
Et
pourquoi
avons,
ne pas le faire dès maintenant?
Nous avons avancé, puisque je rappelle dans la première lecture du texte retraite, je rappelle d'ailleurs qu'on vit toujours sur le 49-3, on l'a oublié, qui a été décidé le même jour où on a parlé en Conseil des ministres de la pandémie.
Oui.
C'était en février. Et nous avions, d'ailleurs, avec le président Ferrand, entamé l'évolution du système de retraite des parlementaires, notamment en créant un régime complémentaire. Donc, nous sommes prêts totalement à évoluer. J'ai d'ailleurs annoncé au bureau du Sénat, vous voyez, ça n'était pas mode, le 9 septembre dernier, que ça n'est pas la suspension de la réforme des retraites qui a arrêté notre réflexion et nos propositions en matière de retraite.
Très rapidement, avant la pause, Marion, sur les retraites.
La majorité des Républicains au Sénat, hier, a réintroduit par un amendement la réforme des retraites, avec notamment l'allongement de la durée de cotisation. C'était le bon timing? C'est le moment, en ce moment?
Poser la question de l'âge, à un moment où cette question n'a pas été traitée, ça m'apparaît indispensable et en responsabilité. Ça fait partie de ce rebasage qu'il faudra bien faire un jour.
Donc il faudra faire cette réforme.
Est-ce que le temps de faire la réforme est aujourd'hui? La réponse est non. Mais cet amendement, nous l'avions déjà voté l'an dernier, il est logique. Il est aussi un amendement en vérité. On ne peut pas dire aux gens, vous aurez un équilibre du système de retraite sans toucher à l'âge et à la durée de cotisation. Ça a été une position constante du Sénat, ça s'appelle la vérité.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce grand jury de Gérard Larcher. On parlera notamment de lutte contre le terrorisme. À tout de suite.
Bonjour, c'est Bérénice Bourgueil.
Bonjour, c'est Bruno Guillon.
Tout à gagner.
Chaque jour, dès 11h30, nous jouons ensemble dans Tout à gagner, le nouveau rendez-vous de RTL pour jouer et gagner 2 000 euros.
Vous gagnez 2 000 euros! Ah, génial.
Quentin, vous êtes le premier à gagner tous ces cadeaux. 2000 euros, comme quoi c'est possible.
Tout à gagner. Présenté par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil. C'est du lundi au vendredi à 11h30 sur RTL. Et à tout moment, en replay sur RTL.fr.
Odette, 83 ans, nous parle du jour du Seigneur et du legs.
Que l'émission s'arrête ? Oh, ce serait inimaginable. Pour moi, la religion, c'est un héritage. Alors mon héritage, il ira au jour du Seigneur. Je leur ai fait un legs pour que mon patrimoine leur revienne quand je ne serai plus là. Ça ne me rend pas triste, ça me met en joie. Comme ça, d'autres pourront, comme moi, rester en communion avec l'Église grâce à l'émission.
Renseignez-vous sur le legs auprès de Marie-Laure, le jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75013, Paris.
RTL, il est 12h30. Un point sur l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Peggy, bonjour à tous. Alors que plusieurs rassemblements de catholiques sont encore prévus aujourd'hui dans plusieurs villes de France pour réclamer un retour de la messe en public, le président du Sénat, le républicain Gérard Larcher, soutient la décision du gouvernement. Il est l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. La loi doit protéger la foi. Je cite, la proposition du gouvernement est proportionnée selon lui. Il souhaite une reprise des messes à partir du 1er décembre, mais seulement si les règles sanitaires sont respectées. Gérard Larcher appelle au dialogue entre les cultes et l'exécutif. Le président du Sénat qui lance également un appel à la solidarité des Français vis-à-vis de leurs commerçants. Il faut réserver une partie de ses achats aux commerçants de centre-ville. Je cite, Gérard Larcher s'est dit enfin favorable à la vaccination obligatoire si nécessaire contre le coronavirus. C'est un espoir important. On ne se vaccine pas que pour soi, c'est une forme de solidarité. Alors que selon un sondage paru cette semaine, la moitié des Français disent refuser de se faire vacciner contre le coronavirus. L'enquête avance après la découverte d'une fête clandestine dans le Val-de-Marne. Deux personnes ont été placées en garde à vue, le propriétaire du pavillon et l'organisateur de la soirée. Dans la nuit de vendredi à samedi, des centaines de personnes s'étaient rassemblées dans une résidence de particuliers à Joinville-le-Pont dans un mépris total des règles sanitaires selon les policiers. Un homme a été blessé lors d'affrontements, transporté ensuite à l'hôpital. Il a été testé positif au coronavirus. Les autorités de santé appellent tous les participants à se faire dépister et à s'isoler jusqu'à réception des résultats. Une opération de police qui a très mal tourné hier soir aux Ulysses, en Essonne, dans un camp de gens du voyage. Une policière a été percutée par une voiture, grièvement blessée. Ses jours ne sont pas en danger. Trois personnes ont été interpellées pour détention d'armes, mais le chauffard, lui, est toujours en fuite. Faut-il y voir un premier signe de ralentissement de l'épidémie en France? Le nombre de patients en réanimation est en tout cas resté en dessous des 5000 personnes hier, selon les derniers chiffres de Santé publique France. Avis de tempête sur le nord-ouest du pays. Le Finistère, la Manche, la Seine-Marie, la Somme et le Pas-de-Calais sont en vigilance orange pour des fortes vagues et des risques de submersion. Dans un contexte déjà de grande marée, on attend des vents violents, plus de 80 km/h en rafale cet après-midi. Soyez prudents. Le football, une grande soirée pour les Bleus. Hier soir, la victoire 1-0 contre le Portugal a été suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs avec un pic à près de 9 millions. Meilleur score pour TF1 depuis la Coupe du Monde 2018. Les courses cet après-midi à Auteuil, départ à 15h15 pour le Quintet. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 2, le 9, le 3, le 4, le 5, le 12, le 10 et le 7, la dernière minute, le 4, Betong Emery. Dans un instant, la suite du grand jury présenté par Benjamin Sportouche.
Découvrez Audio Now, l'application de podcasts originaux pour écouter à tout moment les contenus de votre choix. Des podcasts histoire, actu, humour, sport. Connectez-vous à toutes vos envies quand vous le voulez et de façon totalement gratuite. Téléchargez dès maintenant l'application Audio Now, AUDIONOW, et découvrez sans abonnement des créations audio inédites de RTL, Prisma Media et de nombreux autres médias. Audio Now, branchez sur vos passions.
Pierre, vous êtes un homme de passion, je crois.
Oui, mais j'aime aussi la tranquillité. M'installer dans ma véranda Rénoval à haute performance thermique et contempler bien au chaud, dame nature. Moi, ça me ressource.
Et en ce moment, profitez d'une remise jusqu'à 3000 euros sur l'achat de votre véranda Rénoval. Conditions magasin.
Rénoval.
Véranda, extension, abri de piscine.
Les programmes de fidélité, c'est bien, mais combien nous récompensent vraiment? C'est pourquoi les points gagnés avec votre carte de paiement Gold American Express vous permettent de payer directement vos achats. Et ça, c'est mieux. Profitez de la plus gold des cartes Gold et de tous ses autres avantages. Carte gratuite la première année, plus 80 euros remboursés, sans engagement, sans changer de banque. Offre et conditions sur americanexpress.fr/gold.
RTL.
RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le président du Sénat, Gérard Larcher. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Marion Monk du Figaro et Amélie Carouer de TF1 LCI. Gérard Larcher, quand vous étiez au grand jury, lors de votre dernier passage, c'était en décembre 2019, vous aviez eu cette phrase « Les Français ne croient plus en Emmanuel Macron ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils se sont réconciliés ou pas? Ou est-ce que la défiance est toujours là? Les sondages ne sont pas si mauvais pour le président de la République.
Je pense qu'il y a un problème de confiance, et pas simplement en Emmanuel Macron. Il y a un problème de confiance dans les institutions, et qui d'ailleurs nous touche tous, et qui nous renvoie à la question de la proximité. Les seuls dans lesquels ils ont confiance, ce sont, quelles qu'aient été les conditions des élections municipales, les maires et les élus municipaux. Les sondages, c'est vrai, démontrent, mais on est dans une situation politique singulière. N'y a pas aujourd'hui, pour des démocrates, d'alternative réelle à Emmanuel Macron, en dehors de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Voilà pourquoi il y a une responsabilité politique. Pour les familles de la droite et du centre, pour le gaulliste que je suis, à mettre en place cette alternative, c'est indispensable en démocratie. Et j'ose dire aussi, pour la gauche social-démocrate, il y a une responsabilité. Voilà pourquoi je me bats autant, et depuis longtemps, y compris après l'échec que nous avions eu aux élections européennes, pour que les familles politiques de la droite et du centre à la fois construisent un projet et soient une vraie alternative.
On va y revenir. Mais d'abord, des questions qui restent encore très concrètes, Amélie Carouer.
Question de confiance, de défiance, diront plutôt certains. On a vu un sondage, 60% des Français contournent les règles actuellement du confinement. Mais plus fort encore, on a vu la fête à Joinville. C'est un exemple concret, 300 personnes et une personne testée positive en plus. Ça montre quoi? Est-ce que ça raconte le ras-le-bol des Français?
Non. Beaucoup de Français... Vous savez, vous faites la route entre Rambouillet et Paris ce matin. Et je peux vous dire que la circulation n'a rien à voir, y compris un dimanche matin. Vous êtes dans les rues de ma ville et ça n'a rien à voir. Donc les Français respectent le confinement. Mais par contre, des attitudes comme celles constatées à Joinville, mais dans d'autres endroits, ils sont inacceptables. Et ma seule interrogation, aujourd'hui, un seul en garde à vue. Je trouve que sur 400 personnes, ça fait pas beaucoup.
Il va falloir, j'allais dire, sur ce
sujet, et je partage ce que disait ce matin le ministre de l'Intérieur chez un de vos confrères. L'autorité de l'État doit s'affirmer.
Il est un bon ministre de l'Intérieur, d'ailleurs.
Écoutez, en tous les cas, je vois qu'il fait le travail de ministre de l'Intérieur. C'est encore trop tôt pour juger des résultats. Mais quand il parle de crise de l'autorité de l'État, je le partage. Et cette crise de l'autorité de l'État, il va falloir qu'elle se manifeste concrètement. Et, entre guillemets, l'affaire de Joinville-le-Fond montre qu'il faut... cette autorité de l'État.
Gérald Darmanin, qui est un ancien membre de votre famille politique, Marion Mourgue.
Vous parliez d'attitude. On a parfois l'impression de deux poids, deux mesures. Quand vous voyez les grandes surfaces qui ont recours au chômage partiel, elles ont beaucoup bénéficié du premier confinement, avec les Français qui allaient faire leurs courses. Est-ce que vous trouvez que c'est abusif d'utiliser le chômage partiel quand elles pourraient finalement attendre un peu?
Elles ne recourent pas toutes. J'ai vu que Système U ne voulait pas y aller, que Carrefour y allait. Je pense que il y a une responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Et c'est l'ancienne ministre du Travail qui le dit. Certes, elles ont des droits, mais elles ont aussi des devoirs.
Donc vous les
appelez à réfréner un peu ? Je pense que vis-à-vis de ces devoirs. Et d'ailleurs, ça pourra nous amener à débattre et réfléchir si il n'y a pas des compensations à trouver le moment venu. Vous parliez tout à l'heure de taxation.
Oui.
Je voudrais vous dire que la commission des affaires économiques du Sénat travaille, nous parlions d'Amazon tout à l'heure, à une régulation des plateformes de e-commerce.
Avec une taxation supplémentaire?
Sous quelle forme?
Nous sommes en train d'y travailler.
Non, mais vous venez de parler de
taxation supplémentaire. Mon rêve, c'est pas des impôts en plus, mais je dis que responsabilité sociale et sociétale de ces entreprises, à un moment où on aide, certes, les commerçants indépendants, mais je crains que ça ne soit pas tout à fait au même niveau.
Mais Gérard Larcher, vous dites à ces grandes enseignes, quand même, vous avez bénéficié du premier confinement. Les Français sont venus chez vous et aujourd'hui vous mettez au chômage.
Je dis vous avez une responsabilité.
C'est inacceptable, c'est ça que vous leur
dites ? Je dis que c'est difficilement compréhensible que je que je pense, moi, qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de la société. Parce qu'être une entreprise, c'est pas simplement des dividendes, c'est pas simplement des bénéfices, c'est aussi être dans la société. Et en ces temps où j'appelais à la solidarité, une solidarité entrepreneuriale, ça a aussi du sens.
On verra si vous entendez. Amélie Carouer.
Alors, autre sujet de préoccupation pour les Français, vous parliez de Gérald Darmanin, hein, ça va le concerner. On va parler du terrorisme, que certains dans vos rangs, d'ailleurs, lient avec la question de l'immigration. Est-ce que vous diriez, comme Patrick Stefanini, l'ancien directeur de campagne de François Fillon dans le Figaro, « Nous avons perdu le contrôle de notre politique migratoire », et auquel cas dites-vous qu'il faut un moratoire ?
Avant de vous répondre à cette question, je voudrais dire un mot quand même sur l'islamisme radical. On a trop longtemps détourné les yeux devant la montée de cette radicalité. De Toulouse à Nice, nous en avons connu bien des drames.
Et vous
Est-ce que nous avons nommé les choses ? Nous avons voté un certain nombre de textes. Mais si je prends les trois dernières années par rapport, j'allais dire, à ce qu'ont écrit un certain nombre de sénateurs dans des missions d'information, elles ont identifié ces deux femmes, 147 mosquées d'inspiration salafiste.
Vous parlez du rapport de Jacqueline Eustache-Brinio.
Oui, rapport Eustache-Brinio. Nous en avons fermé 15. Elles ont identifié 18 écoles. 18 écoles, j'allais dire, d'obédience des frères musulmans. Nous en avons fermé 4. Et il a fallu le drame de Conflans-Sainte-Honorine, qui nous touche tous particulièrement, les enseignants. Dans mon département des Yvelines, et je dois dire que ce drame amène à ce que on utilise la loi de 1936 et celle de 2007 sur
la loi de 1936.
Ben oui, sur les associations et la dissolution des associations qui sont contraires à la République. Alors
sur la question de l'immigration, Gérard Larcher, est-ce que vous liez terrorisme immigration et faut-il un mois
Je note que les derniers cas de terrorisme étaient liés, j'allais dire, à des gens qui sont venus illégalement, d'autres légalement en France, ou leur famille. Je note aussi qu'un certain nombre de cas de terrorisme sont le fait de Français qui se sont radicalisés sous l'influence d'une idéologie qui n'est pas une religion. Je fais vraiment la différence entre islam et islamisme radical. Et naturellement, nous ne maîtrisons plus notre politique migratoire. Et ça n'a pas commencé en mai 2017.
Ça aussi concernait la droite
quand je prends,
et Nicolas Sarkozy.
Sûr, mais bien sûr, pas Nicolas Sarkozy, ça fait 20 ans.
Oui, bah, au-delà, la droite à laquelle vous appartenez.
Je vais prendre un chiffre, le chiffre de l'asile. 20 000 demandes d'asile. 80% sont justifiées. Aujourd'hui, plus de 130 000 demandes. L'an dernier, seuls 24% sont reconnus comme justifiés. On voit bien qu'on a un détournement du droit d'asile. Et aujourd'hui, je le dis, il faut que nous traitions cette question. Si je prends l'aide médicale d'État, un chiffre tout à fait clair. Nous avons, en 10 ans, doublé, ce qui traduit le poids de l'immigration clandestine dans notre pays. Nous sommes à plus de 320 000 aujourd'hui. Oui. Ça, ce sont des indicateurs qui démontrent que nous ne maîtrisons pas notre politique migratoire.
Mais est-ce que vous ne faites pas un amalgame entre, justement, cette immigration clandestine et le droit d'asile, notamment politique ?
Mais je ne fais aucun amalgame. Le droit d'asile, il est un droit fondamental auquel je suis attaché. C'est la Convention. C'est la Convention de Genève et c'est aussi celle de Washington. C'est donc un droit fondamental qui vient chez nous de la période de la Révolution, auquel je suis attaché. Ce que je pointe du doigt, c'est le détournement du droit d'asile. C'est le détournement du droit d'asile.
On entend ce que vous dites. Est-ce que vous jugez qu'il faut remettre tout à plat et donc avoir un moratoire sur l'immigration, suspendre les flux qui sont en train d'arriver pour justement analyser la situation ? Est-ce que c'est ce que vous dites aujourd'hui ?
C'est ce que nous avons souhaité d'abord dans un débat préalable avec le Parlement, un débat qui doit être partagé au niveau européen. Nous avons aujourd'hui le pacte migration-asile qui a été proposé par la présidence allemande. Il faut rentrer Il faut rentrer aujourd'hui sur ce sujet, sur ce dossier, non pas avec des incantations, mais avec du concret.
Mais est-ce que
la
France,
l'an dernier, a délivré 270 000 titres de séjour. C'est le pays qui en a fait le plus.
Donc vous dites quoi, c'est trop ?
Je dis c'est inadapté à nos capacités d'intégration et d'assimilation.
Enfin, la question ne se pose pas.
Et d'ailleurs, non, mais Gérard Larcher, je reviens à mes maires.
La croissance économique est là. La question ne se pose pas. On avait, il y a quelques mois, à votre place, avant la pandémie, on avait le patron des patrons qui nous disait « Bien, on aura besoin d'immigration dans ce pays parce que la croissance l'exige ». Donc on a l'impression que c'est des opinions à géométrie variable.
Parce qu'il faut une immigration du travail, qu'elle soit une politique contrôlée. Mais pardonnez-moi, nous ne sommes pas dans la situation des années 60 ou 70 où la croissance était à deux chiffres. Nous avons à résoudre aussi des problèmes d'intégration, d'assimilation. Je vais vous prendre un exemple qui m'a beaucoup frappé. Nous avons des quartiers où les écoles ont près de 80% d'enfants qui sont issus de l'immigration, mais de l'immigration récente. Au Danemark, pour favoriser l'intégration et l'assimilation, on n'accepte pas au-delà de 30% d'enfants, tout simplement pour faciliter cette intégration, parce que nous sommes en plus dans une période où nous voyons, parce qu'il y a aussi un certain nombre de crises, une radicalisation progressive des esprits. Quand une directrice d'école dans une ville de mon département, qui est tout, j'allais dire, sauf syndicaliste, qui est une femme particulièrement modérée, me dit, avant 2015, les papas me serraient la main le matin. Ils ne me serrent plus la main. Est-ce que vous ne vous posez pas la question du partage des valeurs républicaines ?
Et en même temps, on se pose la question, Gérard Larcher, est-ce que ça doit passer par une révision de la Constitution ? Est-ce que ce n'est pas une forme de surenchère ?
Il n'y a qu'un point.
On entend Xavier Bertrand le dire. Et puis votre majorité au Sénat a notamment voté une proposition de loi afin d'inscrire dans la Constitution la prééminence des règles de la République. Sauf que l'article 1 est clair, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Laïque. Donc vous nous dites aujourd'hui, pas besoin de révision de la Constitution, c'est de la surenchère.
Pas besoin de réviser la Constitution, sauf sur un point technique, qui est l'application de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à une vie familiale et personnelle, qui pose un certain nombre de questions sur le regroupement familial. Et qu'il peut y avoir un débat sur ces sujets. C'est le seul. Si nous devons avoir une révision de la Constitution, d'ailleurs, elle ne peut être que suivant l'article 89. Je le dis même à mes amis, c'est-à-dire un débat préalable au Parlement. Je l'ai suffisamment répété à un moment où le président de la République voulait faire une révision de la Constitution. Donc c'est dans ce cadre-là et uniquement dans ce cadre-là.
J'appuie la question de Benjamin sur la surenchère. Est-ce qu'il y a eu une surenchère dans votre camp sur le sujet ?
En tous les cas, vous ne me voyez pas en surenchère, mais je veux là aussi dire la vérité. Nous ne maîtrisons plus notre politique migratoire.
Et limiter le regroupement, voire terminer le regroupement familial. En mettre un terme ?
Non, je ne dis pas de mettre un terme. Je dis qu'il y a un sujet sur le regroupement familial. D'ailleurs, l'Allemagne l'a traité. Ils ont limité le regroupement familial à 1000 par mois. Tout simplement parce qu'il faut voir si on a la capacité d'accueillir, s'il y a des revenus suffisants dans la famille qui accueille, s'il y a un logement, s'il y a une capacité. Enfin, je veux dire, accueillir des gens, c'est aussi une responsabilité.
Oui, mais là, on vous dit que la famille, c'est aussi une manière de
rater
s'inscrire.
L'intégration, l'assimilation. Moi, je note simplement, puisque vous parliez de la position du président du MEDEF, que le taux de chômage, et on parle avant la pandémie, il était le double chez les populations issues de l'immigration par rapport aux populations d'origine nationale. Si il fallait trouver une légitimité à l'immigration par le travail, ça devrait être des chiffres inverses.
Question express.
Le grand jury, question express.
Gérard Larcher, pour ou contre le floutage des visages des policiers sur les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ?
C'est pas le sujet, le floutage. Je vais pas répondre pour ou contre. Le sujet, c'est de protéger les policiers et les gendarmes.
Est-ce que ça passe par le floutage ?
Ça peut passer quand c'est pour le mettre sur un réseau social. Ça n'empêche pas les journalistes de faire leur travail. Donc, mais il faut que nous protégions les gendarmes et les policiers. Il y a, je vous rappelle, en 2015, on les applaudissait. Je n'accepte pas, dans un moment difficile, qu'on ne cesse de les mettre en cause et de mettre en cause leur intégrité physique, leur intégrité personnelle.
Pour ou contre le RSA pour les moins de 25 ans ?
Contre. Contre, parce que je pense qu'il faut les aider autrement.
D'accord. Pour ou contre le septennat unique ?
C'est une proposition, je pense que on peut se faire plaisir. Nous sommes dans le quinquennat, qui est sans doute pas la meilleure idée que nous avons eue, avec notamment l'inversion du calendrier. Je pense que en ces temps de grandes difficultés, ce n'est pas le sujet de préoccupation numéro un des Français.
Pour ou contre un retour aux 90 km/h sur les routes secondaires ?
C'est en cours dans les départements qui jugent qu'ils peuvent le faire.
Ah donc, on laisse faire contre le...
On laisse faire.
Si tous les départements le font...
On laisse faire le territoire. Parce que la verticalité du pouvoir de décider sans consulter les présidents de conseils départementaux de la vitesse sur des routes départementales,
dans votre
c'est l'inverse de ce qu'il faut faire.
Dans les Yvelines, dans
votre
département,
il faut le faire. Ça dépend des voix.
Ça dépend des voix. Enfin, pour ou contre un nouveau mandat de président du Sénat pour Gérard Larcher en 2023 ?
Écoutez, je viens d'être élu dans des conditions et par principe, on prend son temps au Sénat. Le pas de sénateur, c'est pas le pas lent, c'est le pas de la sagesse, de la sérénité et de la réflexion.
Et sur 2022, vous étiez exprimé. Qu'en est-il 2022, Marion Mourde ?
Il y a un an, vous aviez déclaré que si les circonstances vous poussaient, vous pourriez être candidat. En tout cas, vous pourriez envisager une candidature en 2022. Vous pensez aujourd'hui que les circonstances ne sont pas rassemblées ?
Écoutez, je pense que j'ai suffisamment dit que ma seule candidature, c'était à la présidence du Sénat. Et... j'ai été exaucé par une confiance très large de mes collègues.
Donc vous ne serez jamais candidat à l'élection présidentielle, Gérard Larcher ?
Il y a la Constitution.
Il y a la Constitution.
Ça veut dire que si le président était empêché...
Oui, vous... faut que j'assume.
Non, mais vous, est-ce que vous serez candidat ?
Non.
D'accord, c'est clair, c'est dit.
Amélie Carouer. Nicolas Sarkozy dans l'actualité, le Ziad Tiakedine qui s'est retiré, qui est revenu sur ses propos. La justice, malgré tout, a raison de poursuivre son travail. Tout n'est pas bouclé, hein, Gérard Larcher.
Écoutez, la pièce principale de l'accusation vient de tomber. Les autres pièces, pardonnez-moi, l'entourage de feu, le colonel Kadhafi, Mediapart, dont on a oublié que les documents pouvaient ne pas être d'une vérité absolue.
C'est-à-dire, pardon ?
Je crois que j'écoute le président de la République. Pardonnez-moi, je fais plus confiance au président de la République qu'à M. Tiakedine.
Et à la justice ?
Sur la justice, j'avoue que je m'interroge et que... je pense que mes compatriotes ont un doute sur l'état de droit. Il faut qu'on y soit attentif. Je souhaite une justice sereine, apaisée. Et y compris quand la justice, je sors du cas de Nicolas Sarkozy, pense que c'est bien de venir à 6 heures du matin chez un ancien Premier ministre qui pour moi, je ne pense pas me tromper, a fait son devoir, même si nous n'avons pas toujours été d'accord.
Mais pourquoi ils ne le feraient pas pour un ancien Premier ministre comme ils le font pour les Français, Gérard Larcher ? Pourquoi y aurait-il une exception ?
Ils peuvent le faire, mais en pleine pandémie, à force de vouloir en faire de trop, est-ce qu'on n'affaiblit pas ? Est-ce qu'en judiciarisant l'action publique, on ne la paralyse pas ? Est-ce qu'au bout du compte, on aura des politiques qui ne prennent plus de décisions ? Or, prendre des décisions... choisir, c'est renoncer, c'est aussi engager sa responsabilité. Il faut créer les conditions pour que cet engagement de responsabilité ne se traduise pas immédiatement par une mise en cause, ce qui ne veut pas dire qu'on doit être à l'écart de cette mise en cause.
Marion Mourgue.
Les Républicains cherchent leur candidat pour la présidentielle. Vous travaillez à un système de départage. Alors, quand ce système sera-t-il prêt ? Et est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce que dit Christian Estrosi, de pouvoir travailler avec Emmanuel Macron pour la présidentielle, de trouver un accord avec lui ?
Alors, ce n'est pas dans la... la position de Christian Estrosi n'est pas celle que je partage.
Donc
je
vous rejetez cette hypothèse.
Expliqué tout à l'heure. Je pense que nous avons une responsabilité d'offrir une alternative démocratique aux Françaises et aux Français. C'est pourquoi je m'engage à ce qu'on trouve le moyen. On trouve le moyen tout simplement d'être présent au deuxième tour. Si nous avons plusieurs candidats issus des familles de la droite et du centre à l'élection présidentielle au premier tour, nous ne serons pas au second tour. Et tout mon engagement, c'est ça. Qu'il y ait ensuite un deuxième tour entre Emmanuel Macron et un candidat issu de famille politique, c'est autour de valeurs qui s'inscrivent dans les valeurs de la République.
Mais quel est le calendrier pour ce système de départage ?
Écoutez, du fait de la décision probable de reporter les élections régionales et départementales en juin, et je partage les conclusions... De Jean-Louis Debray, je dois dire que dans ses conclusions, il y a un point très important, c'est comment nous organisons le scrutin. Et d'ailleurs, Le président de la commission des lois est en train de mettre en place une mission commune pour savoir comment on vote. Est-ce qu'on vote
Est-ce qu'on vote par procuration?
Est-ce qu'on est dans la procuration?
Vote par correspondance, vous êtes pour ou pas, vous?
Ça va être étudié.
Non, mais vous.
Mais
vous pouvez vous
juger. Non, mais pardonnez-moi.
À la lumière de l'expérience et du passé.
La lumière de l'expérience, je n'étais pas élu dans les années 70. Il faut naturellement un scrutin sincère. Et il y a un sujet très important. Est-ce qu'on peut faire le deuxième tour dans les délais par correspondance? Voilà pourquoi je fais confiance à la commission des lois du Sénat pour nous dire les choses.
Question nette.
Le grand jury. Question nette.
Bonjour Mara Pierre Adam.
Bonjour à tous. Bonjour Gérard Larcher. Vos propos durant cette émission sur Amazon et le Solidarité Friday plutôt que le Black Friday ont fait réagir. Et un internaute vous répond: heureusement qu'on a Amazon quand on vit à la campagne. C'est ce qu'il a écrit. Pourquoi? Parce que ça lui évite de devoir faire 20 km pour pouvoir faire ses courses. Donc il n'y a pas que du mauvais au final.
Je
ne
dis
Amazon.
Pas qu'il n'y ait que du mauvais. Mais heureusement qu'à la campagne, il y a aussi des commerçants qui sont présents. Ils sont des facteurs, j'allais dire, de service. Comment on fait pour les aînés quand on n'a pas de ces commerces de proximité? Comment on fait pour avoir de la vitalité, une vie dans un cœur de village? C'est ça, la vie du quotidien. Aujourd'hui, les gens ont tendance à se replier. Je ne dis pas que le e-commerce est à nier, à combattre, je dis simplement qu'il faut trouver les équilibres.
Autre question.
Oui, alors cette semaine, vous l'avez même d'ailleurs évoqué durant cette émission, un documentaire très controversé qui s'appelle Hold Up a été mis en ligne sur Internet. Il prétend raconter l'histoire secrète du coronavirus, mais en réalité, il surfe surtout sur des théories complotistes et reprend beaucoup de fake news. Des responsables politiques l'ont dénoncé sur Twitter. Mais les défenseurs de ce film, eux, disent que ce documentaire dérange et que toutes les critiques ont pour but de les faire taire. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Que ça n'est pas en imaginant que ce serait Attali, Bill Gates ou d'autres qu'on démontre quoi que ce soit. Je pense que la théorie du complot, dans notre histoire, a fait appel au plus bas instinct. Et que la théorie du complot, il faut qu'on la combatte sur les réseaux sociaux. C'est un sujet pour le législateur. Le premier essai législatif n'a pas été couronné de succès. C'est un sujet aussi européen. Il va falloir que nous responsabilisions les plateformes, sans doute sous le contrôle du CSA. C'est pour moi un sujet majeur.
Mais est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que
réseau,
vous l'avez
regardé? Texte de haine, non, je ne l'ai pas regardé.
Et pourquoi? Bah oui, mais pour lutter contre un documentaire.
J'ai regardé les extraits, j'ai demandé qu'on m'en fasse l'analyse.
Ah, bon.
Parce que 2h34 de m'infuser des fake news, bon. J'ai pensé que j'avais mieux à faire, y compris pour préparer votre émission aujourd'hui.
Choix. Marie-Pierre Haddad.
Oui, le professeur Didier Raoult est poursuivi par l'Ordre des médecins et sur les réseaux sociaux, vous le savez, deux camps s'affrontent, ceux qui le défendent quoi qu'il arrive et ceux qui dénoncent complètement ses méthodes. Est-ce que vous regrettez que dans votre propre camp, d'avoir vu plusieurs responsables politiques qu'ils soutiennent?
Écoutez, laissons l'Ordre des médecins analyser le cas du professeur Raoult. Je fais confiance à la démarche ordinale. Il y a d'autres voies de recours après la démarche ordinale. Si dans ce pays, on arrêtait de se jeter au visage, il y a une procédure. Respectons la procédure. On verra la conclusion de la procédure.
Une toute dernière question, Marion, très rapidement.
Oui, vous n'avez pas répondu. Quand les Républicains auront-ils un candidat pour la présidentielle?
Pardonnez-moi. Je pense que nous devons, dans un dialogue à l'intérieur et des structures du des Républicains, mais aussi avec les autres formations du centre, avec les clubs et avec les candidats qui n'appartiennent pas aux Républicains, avoir un dialogue. Ce dialogue, il faut l'avoir pour qu'à la fin du printemps, nous puissions faire une proposition de méthode de départage.
À la fin du printemps. Merci Gérard Larcher, c'était votre grand jury. Merci à toutes les trois, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, on se retrouve la semaine prochaine.